Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figure de l'Histoire. Alexis, sans un sou alors, retourne à Nijni Novgorod dans un wagon à bestiaux. La ville grouille de politiques qui sont en résidence forcée. Souvent, ce sont des étudiants expulsés de Kazan après les troubles universitaires de 1887. Alexis retrouve deux camarades, d'abord Tchekin, un ancien instituteur, et Somov, un ancien déporté. Tous les deux lui proposent de loger avec eux. En tant que politique, Tchekin et Somov sont espionnés par la police, et bien sûr, Alexis va l'être. Il trouve du travail, il devient le secrétaire d'un avocat libéral qui s'appelle Lanine. Mais il est déçu par deux choses, d'abord le refus de la femme dont il est tombé amoureux, et puis par les intellectuels révolutionnaires, parce que les palabres qu'ils font l'agacent. Et il décide alors, à 23 ans, de voir, de respirer, de comprendre le peuple russe, non pas le peuple russe des livres, mais celui qui trime et souffre sur la terre de ses ancêtres. Alors en avril 1891, il entasse quelques effets personnels et il part à pied de Nijni Novgorod pour découvrir son pays, ses frères, et finalement sa vocation. Alors il embarque sur un bateau, puis après ça, il prend le train jusqu'à Filodovo. Il y retrouve un ami, Yurin, qui le loge chez lui. Il retrouve un cercle d'études, politique bien sûr. La police est au courant et suppose qu'au cours de ces réunions se trament de mauvais desseins. Et finalement, il ne se passe rien. Et Alexis repart. Il traverse les steppes du Don, de l'Ukraine, la Crimée, et il arrive sur le territoire des Cosaques du Kouban. Le Kouban, c'est au sud de la Russie, tout près de la mer Noire. Quand il pénètre dans la ville de Maïkop, les habitants sont en effervescence. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la commission sanitaire a fait abattre tous les bœufs, car quelques-uns étaient atteints de la peste. Fureur des Cosaques qui chassent la commission. Le gouvernement, pas content, fait pendre 3 mutins. Alors, la population fait célébrer un office funèbre. Les autorités y voient une provocation et procèdent alors à des arrestations. Et malheureusement, Alexis est mêlé à la foule. Alors, il est jeté en prison. On trouve un évangile dans sa besace et savez-vous ce que les gendarmes pensent ? Eh bien, ils pensent que c'est sûrement un sectaire qui prêche la désobéissance aux populations rurales. Il est libéré finalement et il reprend ses pérégrinations. Il arrive à Tiflis. Tiflis, c'est le Tbilissi actuel. Il y connaît un certain Natchalov, avec qui il a travaillé à Dobrinka. Ce dernier obtient pour Alexis un poste dans les bureaux de l'administration des chemins de fer de Transcaucasie. Il l'introduit dans les milieux intellectuels composés de politiques en résidence forcée. Alexis se remet alors à l'écriture, en vers d'abord, puis en prose, et il fait la connaissance d'Alexandre Kalyuni, qui va avoir sur lui une influence bénéfique. Alexis écrit alors un conte qui s'appelle Makar Tchoudra. Kalyuni le porte, sans le lui dire, à un éditeur. Alexis est tout à fait sans illusion, mais voilà que l'éditeur accepte le manuscrit et lui demande quel nom il veut signer. Je vous rappelle qu'Alexis s'appelle Petchkov. Et il se souvient que son père, à cause de sa langue pointue, avait été surnommé la mère, en russe Gorki. Alors, est-ce que c'est pas un pseudonyme merveilleux pour un jeune écrivain révolté contre la société? Alors, il opte pour Gorki et il change même son prénom pour celui de Maxime. Dorénavant, il s'appellera Maxime Gorki. Le 12 septembre 1892, le journal Le Caucase publie le conte sous la signature d'un certain donc Maxime Gorki, nouveau venu dans le monde des lettres. Et il repart dans sa ville natale de Nijni Novgorod. Il trouve une place chez le même avocat Lanine et il est tombé amoureux d'Olga qui vient le rejoindre avec sa fille. Seulement, bien vite, il s'aperçoit qu'elle est superficielle et coquette, qu'elle ne s'intéresse pas du tout à la littérature. En dehors de son travail, Gorki écrit. Un de ses amis lui vole le manuscrit d'un conte qui s'appelle Emelian Pilaï et l'envoie à un quotidien très connu qui s'appelle Les Informations Russes. Et le manuscrit est accepté et Gorki peut se dire qu'un grand journal d'opposition libérale, dont les collaborateurs habituels sont des professeurs et des écrivains, apprécie sa prose. Vous savez qu'il gardera toujours une sorte de complexe d'infériorité parce qu'il a quitté l'école à 10 ans. Encouragé, Gorki envoie plusieurs contes au rédacteur en chef d'un journal de Kazan qui les publie. Un grand quotidien de Samara l'engage même comme collaborateur régulier à 100 roubles par mois. Gorki quitte alors Nijni Novgorod et Olga, qui n'apprécie ni la littérature ni la politique. Il arrive à Samara le 23 février 1895 et il fournit chaque jour au journal un article sur un sujet d'actualité locale. Le dimanche, il publie un feuilleton littéraire. Il a de plus en plus de succès. Un grand journal de Nijni Novgorod l'engage comme rédacteur attitré. Et un autre grand journal, Les Nouvelles d'Odessa, lui demande d'être son correspondant spécial pour l'exposition pan-russe de cette année-là à Nijni Novgorod. C'est une exposition qui est à la fois industrielle et artistique. Eh bien, quand il la visite, Maxime n'est pas content. Il pense que c'est montrer la réussite de l'argent. De plus, en plus, cette exposition lui semble une insulte à la misère des petites gens. Il dit que le peuple ne vient pas à l'exposition. Il n'en a ni le temps, ni les moyens. Et subitement, Maxime est atteint d'un début de tuberculose. Les médecins lui ordonnent alors un séjour en Crimée. Seulement, il ne vit que de son salaire. Alors il doit faire appel à un fonds littéraire de Saint-Pétersbourg qui aide les écrivains et les savants nécessiteux. Et c'est long. Seulement, entre-temps, un événement heureux survient. Il rencontre dans les bureaux une jeune fille de 18 ans, Catherine Volpine. Elle est correctrice, elle a fait des études, et ses études sont même terminées par une médaille d'or. Elle est séduite par Gorki, qui demande sa main. Mais les parents ne sont pas trop enthousiastes, parce qu'ils trouvent quand même qu'il y a une différence de culture extrêmement grande entre les deux. Mais voilà finalement que le papa meurt et la mère cède. Le mariage a lieu en août 1896. Début 1886, l'argent du fonds arrive, si bien que le couple part pour la Crimée. Nous allons faire une première pause musicale. Je vous raconte la vie de Gorky. Gorky qui vient de tomber tuberculeux et qui part se soigner avec sa femme en Crimée à l'aide d'un fonds spécial pour les écrivains nécessiteux. Alors il est bien soigné, il est remis d'aplomb et le 27 juillet, leur naît un garçon prénommé Maxime. Seulement à cause de ses écrits, Gorky est surveillé. Désormais, il ne peut plus se déplacer ni changer de résidence sans une autorisation de la gendarmerie. Sa carrière d'écrivain s'annonce brillante. Son premier livre, qui s'appelle « Esquisses et récits », est publié à Moscou. Ça plaît beaucoup parce que le langage est très rude. Ça change tout à fait de ce qu'il y avait comme littérature avant. Il attaque l'esprit petit bourgeois et il vante les mérites de l'anarchisme populaire. Un grand nombre de jeunes gens le suivent. Pour ces révolutionnaires, il faut s'appuyer sur le prolétariat des villes pour faire exploser la marmite. Gorky s'attelle maintenant à un roman qui s'appelle « Thomas Gordeïev ». Il est publié en 1899 et dédié à Tchekhov. Ils correspondent, Tchekhov et lui, et Tchekhov conseille Gorky. Ce dernier est de plus en plus populaire. Son appartement sert de lieu de rencontre aux amateurs de littérature, mais aussi aux passionnés de politique. Vous pensez bien que dans ces conditions, il est très surveillé, au point qu'un policier s'installe chez eux. Il publie alors un autre roman qui s'appelle « Les Trois ». Il y démontre que le capitalisme est l'adversaire irréductible des travailleurs. Le 26 mai 1901, naît une fille, Katyusha. C'est l'équivalent de Catherine chez nous. Les autorités sont si mécontentes de son influence qu'il est expulsé vers la Crimée. Mais on lui interdit de résider à Yalta. Alors il loue un pavillon à Oleïs, pas loin de Gaspra, qui est une station balnéaire. Tchekhov, lui, il habite Yalta. Alors finalement, les deux se rencontrent. Et Gorky est ému par la gentillesse de Tchekhov, qui est tuberculeux lui aussi, mais au dernier degré, et condamné à une mort prochaine. Et il rencontre, il y a une autre sommité, en Crimée, pour raison de santé, c'est Tolstoï. Alors, il se voit, mais aucun des deux n'est à l'aise avec l'autre. Ils viennent de deux classes sociales vraiment trop différentes. Je vous rappelle que Tolstoï, il est comte, et il est extrêmement riche, alors que Gorky, lui, a connu la misère. Cependant, les deux hommes parlent volontiers de quelque chose qu'ils ont en commun quand même, c'est de littérature, de musique, de théâtre, et même de Dieu. Et voilà que Gorky apprend qu'il est élu académicien d'honneur dans la section Belles-Lettres. Le tsar Nicolas II est absent. Il est vraiment outré de voir qu'un, on peut dire, moujik arrive à avoir une telle distinction. Et savez-vous ce que fait le tsar? Eh bien, il ordonne à l'académie d'annuler cette élection. C'est fait. Par solidarité, Tchekhov démissionne, mais pas Tolstoï. Gorky n'est pas mécontent de cette situation parce que ça accentue son image de protestataire finalement. Au retour de Crimée, il est assigné à résidence à Arzamas, ça se trouve à une centaine de kilomètres de Nizhny Novgorod. Il écrit alors une pièce de théâtre qu'il appelle « Les Bas-fonds », une pièce tout à fait pittoresque et violente. À la fin du mois d'août 1902, Gorky est autorisé à retourner vivre à Nizhny Novgorod. Le 5 septembre, il est à Moscou pour monter la pièce. Et sa pièce fait un triomphe. Maxime devient le héros du jour. Plus la popularité de Gorky grandit dans les salons, les universités, les usines, plus les milieux d'extrême droite en prennent ombrage, au point qu'il est même victime d'une tentative d'assassinat. Et il est sauvé, savez-vous pourquoi? Eh bien parce que son porte-cigarette arrête la lame du couteau. Dès 1901, pour s'opposer à la propagande socialiste, le gouvernement a imaginé de créer des organisations ouvrières contrôlées par des agents de l'OKRHAMA, c'est la police politique. Il décide d'organiser une manifestation gigantesque qui doit se rendre auprès de l'empereur pour lui présenter une pétition réclamant sa protection et l'élection au suffrage universel d'une assemblée constituante. Nicolas II est mal conseillé, il refuse de rencontrer la délégation et il envoie même des soldats pour lui barrer la route. Et la troupe tire, faisant des centaines de morts et de blessés. Gorki déclare qu'un tel régime ne peut plus être toléré et il appelle tous les citoyens de Russie à une lutte immédiate, tenace et fraternelle contre l'autocratie. Maxime est alors arrêté et enfermé dans la forteresse Saint-Pierre-Saint-Paul. Son arrestation provoque des vagues de protestations en Russie et même à l'étranger. Alors au bout d'un mois, il est libéré. Il est envoyé à Riga dans un hôtel avec deux espions comme voisins de chambre. En automne 1905, les poursuites contre lui sont finalement abandonnées. Le 27 octobre 1905, paraît le journal que Gorki fonde avec ses amis sociaux-démocrates. Ce journal s'appelle « La vie nouvelle ». Le 27 novembre, il rencontre Lénine pour la première fois. Et ils mettent quand même quelque temps à se comprendre. Gorki continue de faire circuler des proclamations, évidemment sous le manteau. Ses amis lui suggèrent alors de partir pour les USA afin de réunir des fonds pour servir la cause. Il est d'accord. En ce qui concerne sa vie privée, au bout de 7 ans de mariage, il s'est séparé de sa femme, mais ils n'ont pas divorcé. Il vit maintenant avec une actrice, Maria Andreeva. Ils partent ensemble, ils passent en Finlande, ils arrivent à Berlin en février 1906, rencontrent alors les chefs sociaux-démocrates allemands, puis ils passent par Paris, où il rencontre Anatole France, qui fait partie de la Société des Amis du Peuple Russe. En avril 1906, embarquement à Cherbourg pour New York. Nous allons faire une deuxième pause musicale. je vous raconte la vie de Gorki. Et avec sa compagne, il s'embarque pour les États-Unis pour essayer de récupérer de l'argent pour le mouvement social-démocrate russe. Donc, ils embarquent à Cherbourg pour New York. À sa descente du bateau, il est acclamé par la foule. Mais dans les USA, qui sont extrêmement pudibonds à l'époque, quand on apprend que Maria n'est pas sa femme, eh bien, figurez-vous que le couple est vilipendé et ne trouve refuge nulle part, sauf chez un couple, les Martins. Il apprend alors que sa fille Katyusha est morte de tuberculose et il écrit une lettre affectueuse à sa femme. Finalement, il n'aime pas du tout les États-Unis et il les quitte le 13 octobre 1906 pour l'Italie. Là, il y est accueilli au cri de « Vive Gorki ! Vive le grand écrivain ! Vive la Révolution russe !» Il s'installe à Capri, il reçoit beaucoup de visiteurs et finalement, il ne se plaît pas en Italie. Il rêve toujours de sa Russie. En 1913, à l'occasion du 300e anniversaire de l'avènement de la dynastie des Romanov, le tsar Nicolas II accorde une amnistie politique partielle qui s'étend au délit de presse. Alors Maxime reste encore un peu en Italie, à cause de ses poumons toujours, mais à la fin de décembre 1913, il boucle ses valises. Dès qu'il touche le sol de la Russie, il tombe sous la surveillance de la police. Cependant, son retour est salué avec enthousiasme par tous les adversaires du régime. Fatigué par le voyage et la maladie, conseillé par Chaliapine, je vous rappelle que Chaliapine, c'était un chanteur d'opéra, un chanteur basse, qui le supplie de ne pas attirer sur lui l'attention de la police, Gorki refuse de paraître aux réunions que la jeunesse vient d'organiser en son honneur, et au lieu de résider à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, il se retire à Moustamiak, en Finlande, mais quand même tout près de la frontière russe. Cet éloignement de la capitale ne l'empêche pas d'entretenir des relations suivies avec les milieux révolutionnaires. Et finalement, pour se rapprocher de l'agitation sociale, il finit quand même par s'installer à Saint-Pétersbourg. Et on en arrive à la guerre de 1914. Elle provoque une scission au sein du Parti social révolutionnaire et social-démocrate. Lénine, lui, mise sur la victoire de l'Allemagne, d'où découlera, pense-t-il, la révolution russe. Gorki se range à son avis. Cependant, tout en condamnant la guerre, il ose souhaiter ouvertement la victoire de l'ennemi. Les premiers revers russes frappent le public de consternation et de crainte. Mal commandés, mal équipés, mal ravitaillés, les soldats opposent une résistance héroïque, mais qui ne sert absolument à rien. Dans les salons, on évoque la nécessité d'un changement de politique. On dénigre le tsar. Est-ce qu'on ne peut pas exiger, par exemple, l'abdication de Nicolas II ? Gorki écrit que bientôt, ils auront la famine. Et en 1916, les grèves se multiplient. Les paysans pillent les demeures seigneuriales. Les magasins sont vides, les soldats désertent. En février 1917, les ouvriers se soulèvent en masse. On crée un gouvernement provisoire. Le 2 mars 1917, Nicolas II abdique. La Russie cesse d'être un empire, mais Gorki demeure sceptique. Cette attitude prudente n'est pas du tout du goût des bolcheviks. Je vous rappelle que les bolcheviks, ce sont les membres d'une des deux factions du Parti social ouvrier et démocrate. Lénine, lui, prêche la négation des valeurs anciennes et la liquidation physique des opposants. Ils espèrent le chaos, d'où sortira, dit-il, une société nouvelle. Les événements se précipitent. L'empereur et la famille impériale sont internés à Tsarskoïe Selo. Lénine, revenu clandestinement, ordonne d'ouvrir les hostilités dès le 25 octobre 1917. Partout, on foule aux pieds les emblèmes impériaux. Le croiseur Aurore, ancré au milieu de la Neva, tire sur le palais d'hiver. Lénine est nommé président du Conseil des commissaires du peuple. Il exerce un pouvoir absolu. Gorki, lui, il essaie de tempérer. Pour lui, chez Lénine, il y a une absence totale de morale et il est vraiment quelqu'un d'une dureté impitoyable. En fait, on peut dire de Lénine qu'il ne connaît pas les masses populaires. Il n'a pas vécu au milieu d'elles. Gorki, si. Le gouvernement nouveau crée la Tchéka. Alors la Tchéka, on peut dire que c'est l'ancêtre du KGB. Alors se succèdent les perquisitions, les arrestations, les exécutions sommaires, à un rythme absolument vertigineux. Personne n'est à l'abri de la dénonciation d'un voisin. Tout individu suspect d'opinion libérale est traité en ennemi du peuple. Des familles entières disparaissent du jour au lendemain. Alors Gorki dénonce avec indignation les exécutions arbitraires. En février 1918, une paix séparée à Brest-Litovsk, négociée par Trotsky. Elle consacre une trêve avec l'Allemagne. Elle consacre la mainmise de l'Allemagne sur la Pologne et les provinces baltiques. Gorki écrit alors son désaccord dans le journal Vie Nouvelle. Eh bien, Lénine, pas content, fait supprimer le journal. Il en a assez que Gorki demande la mansuétude envers les intellectuels libéraux et qu'il dénonce la barbarie. En mars 1918, la capitale est transférée de Petrograd, c'est-à-dire Saint-Pétersbourg, à Moscou. En juillet, sur l'ordre de Lénine, le tsar et sa famille sont absolument massacrés. Plus rien ne subsiste de l'ancien régime exécré. Nous allons faire une dernière pause musicale. Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte la vie de Gorki, qui est tout de même vraiment... il essaie de tempérer Lénine. Lénine qui fait un ravage parmi la population pour tous ceux qui ne pensent pas comme lui. Et même en juillet, le tsar et sa famille sont massacrés. Le 6 octobre 1918, la Gazette Rouge annonce que Gorki est bien qu'intellectuel au travail pour le prolétariat russe. La Russie est sur le point de sombrer parce que l'hiver est terrible. Le peuple a faim. Gorki, refusant de désespérer, fonde alors un comité pour la protection des musées, des objets d'art et des monuments historiques. On se demande ce que ça vient faire là. Eh bien, il dit que l'art, c'est la beauté que des hommes de talent ont su créer, fût-ce sous le joug du despotisme. Il se montre quand même, à mon avis, un peu plus intelligent que Lénine. Il implore de sauver les écrivains, les professeurs, et de les sauver surtout de la Tchéka, cette épouvantable police politique. Et ça agace Lénine. Gorki est à nouveau atteint par la tuberculose. L'Italie ne veut pas de lui, et c'est en Allemagne qu'il se soigne. Au printemps de 1928, il rentre à Moscou. Et la Russie qu'il retrouve est différente de celle qu'il a quittée. Lénine est mort, Staline lui succède. Gorki est résolu à tout approuver, à tout admirer par amour de la terre russe, du progrès technique et des masses laborieuses. Il est reçu avec enthousiasme et il entreprend une grande tournée. En dépit de son désir d'être le laudateur attitré du régime, Gorki ne peut ignorer le caractère dictatorial que Staline a imprimé à son action. Il sait que le pays vit dans une terreur permanente, que l'épuration est féroce. Toute contrainte lui paraît bonne pourvu qu'elle ait comme excuse le bonheur du prolétariat. Et il pense que ce bonheur, il en est même convaincu, c'est pour demain. Mais voilà que Gorki s'affaiblit. Il part se reposer en Crimée. Le 26 mai 1936, il revient à Moscou. Ses problèmes respiratoires s'aggravent. Le dimanche 18 juin 1936, il s'éteint. Staline ordonne alors des funérailles nationales. Tolstoï fait un discours et André Gide se déplace même pour ses funérailles et lui aussi fait un discours. Et voilà que se répand l'idée que Gorki a été assassiné. Staline en profite pour mettre en accusation les personnes dont il veut se débarrasser. Elles sont carrément fusillées. Le professeur Pletnev, lui, est interné dans un camp de concentration. Et pendant son séjour, il a confié à une détenue que Gorki a été assassiné sur l'ordre de Staline. Il ajoute, et je le cite, « Nous, les médecins, nous nous taisions, même lorsque le Kremlin publie une version officielle et totalement fausse de la mort de Gorki. » En désignant Staline comme le seul responsable de la mort de Gorki, Pletnev rejoint la thèse de Trotsky et de tous ceux qui voient dans le maître du Kremlin un dictateur sanguinaire. Mais nombre d'esprits avisés estiment peu plausible la thèse de l'assassinat. Âgé de 68 ans, tuberculeux, usé, Gorki peut très bien avoir succombé à une pneumonie. La mort du plus grand écrivain soviétique a paru à Staline un excellent prétexte pour dramatiser le débat et faire fusiller ceux qui le gênent. Ainsi, même par-delà le tombeau, Gorki le naïf, l'intransigeant, le fidèle, continue à servir le régime. Au revoir à tous. Ouais.